Vous êtes sur RTL.
RTL Midi.
Le 12-30, Christelle Rebière.
Bonjour à tous, bienvenue dans RTL Midi. Et en ce jeudi 15 avril, Emmanuel Macron au chevet de Notre-Dame, symbole religieux et populaire de la France. 2 ans après l'incendie, visite de chantier, le chef de l'État souligne l'immense travail accompli. Nous verrons aussi l'immensité du travail qui reste à accomplir. Une bonne nouvelle, la vaccination a changé la vie des plus âgés en maison de retraite. D'après le CINERPA, il y a 26 fois moins de décès en ce moment que durant le second confinement en novembre dernier. La santé des plus jeunes, elle, inquiète, d'où la mise en place d'un forfait psy pour les enfants et adolescents de 3 à 17 ans. Nous en parlerons avec la chef du service de pédopsychiatrie de l'hôpital Necker à Paris, Pauline Chaste. Dans RTL Midi aussi, un pédophile piégé au Havre par une fillette virtuelle, la Grèce qui prépare l'arrivée des touristes et un nouveau paiement par smartphone au restaurant, plus besoin de carte bancaire. La météo, bonjour Peggy Broche.
Bonjour Christelle.
Les jours passent et se ressemblent.
Oui, c'est vrai, même type de temps qu'hier, quasiment, avec beaucoup de soleil. Petite nuance tout de même cet après-midi, plus de nuages et quelques averses sur le nord-est et sur la façade est avec une limite pluie-neige assez basse, 600-700 mètres sur les Vosges et le Jura, 1000 mètres sur les Alpes du Sud, où le temps devient instable et chargé comme en Corse. Et puis il y a toujours ce petit vent de nord-est qui renforce la sensation de fraîcheur. 9 degrés seulement cet après-midi à Cherbourg, 11 à Paris et Mulhouse, 13 à Nantes, 14 à Cognac, 17 à Toulouse et 18 degrés à Montpellier.
La question du jour sur RTL.fr, faut-il organiser un hommage national aux 100 000 victimes du Covid ? On attend vos arguments au 32-10. Bonjour Pascal Pro.
Bonjour. Faut-il organiser un hommage national pour les victimes du Covid ? Ce sera effectivement une de nos interrogations du jour. Emmanuel Macron qui préside en fin de journée une réunion sur les protocoles de réouverture des lieux fermés. Est-ce qu'il faut croire que nous allons déjeuner en terrasse le 15 mai ? C'est une bonne question. Les enfants sont-ils les grands oubliés de cette crise ? Oui. Que vous disent-ils depuis un an ? C'est très dur. Et on en parlera tout à l'heure. Il n'y aura pas de procès pour le meurtrier de Sarah Halimi et la Cour de cassation a confirmé hier les responsabilités pénales du meurtrier. Ça choque beaucoup de gens, notamment les juifs français. Et puis Jean-Luc Mélenchon est en tournée en Amérique du Sud. Est-ce que cela vous choque en pleine pandémie ?
Au 32-10, RTL vous donne la parole.
Visite de chantier avec port du casque obligatoire. Emmanuel Macron s'est rendu à la cathédrale Notre-Dame 2 ans jour pour jour après le terrible incendie qui a failli mettre à terre le monument le plus visité au monde. Et le chef de l'État a lancé un message d'espoir.
Chacune et chacun se remémore aujourd'hui là où nous en étions il y a 2 ans, l'émotion qui était la nôtre et l'émotion de tous les catholiques, de toutes les parisiennes et tous les parisiens et tous les français et toutes les françaises. Et je crois qu'on voit ici combien en 2 ans, un travail immense a été accompli. Et on n'est qu'à une étape, on voit aussi tout ce qui reste à faire. Je crois que c'est un message de fierté collective, parce qu'on a beaucoup fait en 2 ans et on a évité le pire. Et puis on regarde aussi les 3 ans qui viennent, parce qu'il va nous falloir tenir nos objectifs. Et donc c'est aussi du volontarisme et de l'espoir.
Du volontarisme et de l'espoir. Sinamir, vous êtes sur le chantier pour RTL. Qu'est-ce qui a été fait et que reste-t-il à accomplir ?
Eh bien, on arrive presque à la mi-temps de ce chantier. On est tout en haut de l'échafaudage intérieur, sous le trou de la nef de la cathédrale, pour le constater. Alors, en 2 ans, l'échafaudage calciné à l'extérieur a été totalement démonté. Un squelette d'immenses cintres en bois est venu structurer maintenant l'intérieur de Notre-Dame. C'est la fin de la phase de sécurisation de la cathédrale. Et cet été va commencer, la deuxième mi-temps, toute la phase de restauration, de reconstruction. Il faut nettoyer le plomb qui a pollué l'ensemble des pierres, des peintures et des statues dans l'incendie, reconstruire les voûtes de la nef qui s'est effondrée. Et puis, la partie finale sera de remonter jusqu'au coq de la flèche de Viollet-le-Duc. Mais ça nous emmène très loin. Dans 3 ans, fin 2024, d'ici là, les cordistes, les échafaudeurs, les restaurateurs et tous les métiers d'art qui s'activent par centaines, ici, ont encore fort à faire.
Merci Namir, en direct de la cathédrale pour RTL et pour la Renaissance de Notre-Dame dont on parlait à l'instant. Nos artisans d'art excellent, c'est notre coup de cœur du jour.
RTL, le coup de cœur de nos correspondants.
2 jours avant l'incendie, 16 statues avaient été envoyées pour réfection dans une entreprise spécialisée en Dordogne. Des statues de 3 mètres de haut qui étaient disposées autour de la flèche. Ces chefs-d'œuvre en cuivre sont actuellement restaurés à Marsac-sur-l'Isle, près de Périgueux, Philippe Demaria.
La statue de Saint Thomas de plus de 3 mètres de haut est couchée sur le côté, ouverte comme pour une autopsie. Là, on voit l'armature restaurée qui est remise en place dans la statue. Et après, il y a tout le travail de ressoudure de tous les éléments autour de cette armature.
Richard Boyer est historien de l'art, patron de la Socra.
Elles ne sont pas très lourdes, elles pèsent à peu près 150 kilos. C'est creux, c'est vide, hein. C'est juste une armature, une sorte de crinoline qui permet de maintenir ces pots de cuivre qui font qu'un millimètre d'épaisseur. Et c'est quelque chose qui est assez exceptionnel.
L'armature est désormais comme neuve, les soudures des cuivres parfaites. Reste à Dominique Saut, restauratrice d'art à terminer cet ouvrage délicat.
C'est un immense honneur de travailler dessus puisque nos aînés ont très très bien travaillé. Moi je ne fais que la patine pour donner différentes teintes. Une teinte brune, c'est du cuivre très très fin. Je ne respire pas beaucoup quand je patine à chaud parce que je ne veux pas détériorer le travail de mes collègues et puis en même temps il faut que c'est un beau rendu.
Et les dernières statues de Notre-Dame vont bientôt quitter l'atelier de la Socra direction la cité de l'architecture à Paris. Elles ne reviendront pas en Dordogne avant plusieurs dizaines d'années.
Reportage Philippe de Maria. Nous tiendrons et nous allons rebâtir, c'est ce que disait Emmanuel Macron ce matin dans Le Parisien en faisant un parallèle entre Notre-Dame et la crise sanitaire. Et aujourd'hui, sur le front du Covid, eh bien, il y a une bonne nouvelle venue de nos aînés. La vaccination a tout changé. D'après les chiffres du CINERPA, qui regroupe bon nombre de maisons de retraite, il y a aujourd'hui 26 fois moins de morts dans leurs établissements que pendant le deuxième confinement, Odile Couget.
Oui, les chiffres sont très parlants. 1300 décès par semaine à la mi-novembre. On était alors au pic, puis plusieurs semaines de plateau très haut, entre 500 et 700 morts. Décrochage extrêmement net au 10 mars après la deuxième campagne de vaccination. On est alors à 300. Aujourd'hui, les EHPAD enregistrent une cinquantaine de décès par semaine. Même scénario très encourageant pour les contaminations. 1000 par semaine aujourd'hui, c'est 20 fois moins qu'en novembre. Florence Arnaise-Momet, déléguée générale du CINERPA.
Objectif, continuer la lutte de la descente. Je le dis avec le sourire parce que c'est un beau combat. Hein. Franchement, quand on en arrive là, on est extrêmement ému et extrêmement heureux. Pour autant, il faut continuer.
Aujourd'hui, 95% des résidents ont reçu une première dose, 72% la seconde, 50% du personnel est lui aussi vacciné. Cette nette amélioration permet un assouplissement des mesures barrières, visite en chambre à nouveau autorisée sur rendez-vous, reprise des ateliers d'animation en sous-groupe et réouverture très très progressive des salles communes pour les repas.
La vie quoi. Merci Odile. Les enfants et les adolescents, eux, sont touchés de manière indirecte par ce jour sans fin. Angoisse, troubles alimentaires, dépression. Emmanuel Macron a annoncé la mise en place d'un forfait psy, la prise en charge de 10 séances prépayées auprès d'un psychologue. Avec nous en studio, la chef du service de pédopsychiatrie de l'hôpital Necker à Paris. Bonjour Pauline Chast.
Bonjour Christelle.
Vous étiez venue dans RTL Midi au mois de janvier lancer un SOS parce qu'à l'époque, vous voyez arriver beaucoup trop d'adolescents en détresse totale avec même parfois des pré-ados qui faisaient des tentatives de suicide. Le recours aux urgences a d'ailleurs bondi de 40% en 2020. Quelle est la situation aujourd'hui ?
Alors aujourd'hui, depuis la fermeture des écoles, on observe une très légère accalmie. L'activité reste néanmoins très dense avec des situations quand même très préoccupantes. Mais ce qui nous inquiète beaucoup, c'est que le mois de mars a été vraiment très critique et on appréhende considérablement les mois de mai et juin.
C'est-à-dire très critique. Vous avez vu arriver quel type de profil ?
On a vu arriver un nombre d'adolescents pour des tentatives de suicide plus élevées que de novembre à février, alors que déjà depuis novembre, c'était anormalement élevé par rapport aux années antérieures.
Et comment vous l'expliquez ?
Alors, on a toujours une recrudescence des urgences pédopsychiatriques à cette période de l'année. La pédopsychiatrie est assez saisonnière, donc c'est pas complètement inhabituel. Là, ce qui est très inhabituel, c'est l'ampleur que ça prend, probablement du fait d'une certaine usure, d'un manque de perspective pour les adolescents, et aussi, je pense, des questionnements par rapport à un éventuel confinement qui allait arriver ou pas arriver.
Manque de perspective. Est-ce qu'il y a aussi le fait qu'ils ont moins de relations avec leurs copains, qu'on fait pas de sport aussi ?
Alors, les relations avec les copains, ça c'est indéniable, hein, et ils le disent, c'est un manque vraiment important pour les adolescents. Le sport, effectivement, joue un rôle fondamental dans l'équilibre des adolescents. Alors, tous les adolescents ne font pas du sport, et on peut le regretter, mais très certainement, oui, il est très important que des activités sportives se poursuivent, et d'ailleurs, il y a des clubs qui font des activités en extérieur.
Et leur principal lien, souvent avec l'extérieur, se fait via les réseaux sociaux, via les écrans. Vous nous en aviez parlé déjà au mois de janvier. C'est un sujet qui vous inquiète toujours, les écrans?
C'est un sujet qui nous inquiète énormément parce que la persistance de la restriction des activités et des opportunités pour les adolescents de sortir majore considérablement le risque que ça se chronicise. C'est-à-dire que cette consommation...
C'est-à-dire qu'on prend de mauvaises habitudes?
On prend de mauvaises habitudes et on gère aussi l'angoisse en remplissant le vide par les écrans. Et pour des enfants ou des adolescents qui sont un peu fragiles, ça peut être un peu compliqué après de reprendre le cadre.
Donc ça peut devenir vraiment addictif?
Alors c'est addictif par nature, hein, on le sait tous, y compris les adultes. Mais effectivement, oui, ça peut devenir compliqué de réduire le temps d'écran.
Emmanuel Macron, à travers son forfait psy, veut s'adresser aux 3-17 ans. Pourquoi eux ?
Alors, parce que tous les enfants sont touchés par la crise sociale et psychologique liée à la pandémie. Les adolescents, on en a beaucoup parlé, effectivement, du fait d'un manque d'extérieur. Pour les petits, il y a probablement des difficultés au sein de la famille, avec souvent des difficultés de sommeil et des difficultés pour les parents à faire face aux angoisses des enfants dans cette période difficile. Et les choses peuvent se manifester par des troubles assez banals. Et on peut facilement penser effectivement qu'un forfait psy pourrait beaucoup aider les plus petits parce que c'est de la prévention. Et l'idée est vraiment de pouvoir prévenir des troubles plus importants par la suite.
Donc dès qu'ils sont trop agités ou qu'il y a des problèmes de sommeil,
exactement,
il ne faut pas hésiter.
Exactement. Hein,
il ne faut pas attendre en tout cas.
Non, il ne faut pas attendre.
Merci beaucoup, merci professeur Chaste d'être venu dans ce journal refaire le point. Pour contrer le variant brésilien qui est présent en ce moment à 80% en Guyane, un tour de vis, c'est une information RTL. Depuis hier, les passagers qui arrivent dans l'Hexagone font l'objet de contrôles systématiques et de tests antigéniques obligatoires. L'épidémie continue de galoper, notamment en Inde. Un record de 200 000 nouveaux cas a été enregistré au cours des dernières 24 heures. Le plus grand pays d'Asie est le deuxième pays le plus touché par la pandémie. Dans un instant, on revient sur la question du jour avec Pascal Praud. Faut-il organiser un hommage national aux 100 000 victimes ?
RTL Midi. RTL Midi.
Avec Christelle Rebière.
Dans quelques heures, la France passera le cap aussi terrible que symbolique des 100 000 morts du Covid après la Grande-Bretagne et l'Italie. Il y aura un moment d'hommage et de deuil pour la nation, promet l'exécutif. Mais le faut-il vraiment ? Et comment ? C'est la question que l'on vous pose sur RTL.fr et sur laquelle vous allez revenir dans 20 minutes, Pascal Praud, avec les auditeurs.
C'est une question piégeuse parce que si vous dites non, vous passez pour un sans-cœur. Si vous dites oui, ça ne mange pas de pain, vous choquez personne et c'est sans risque. Je vais donc vous dire non, je ne crois pas qu'il faille ériger un monument ou décréter un jour férié en plus pour honorer les morts du Covid. En revanche, le meilleur hommage, ce serait de doter l'hôpital de moyens et d'organisations suffisantes pour que jamais plus dans l'avenir, on se retrouve avec des services de réanimation saturés. Et le meilleur hommage aussi, c'est pour les soignants et notamment les infirmières de revaloriser leurs conditions de travail. Voilà ce qu'on pourrait tous attendre collectivement.
Et pour toutes les familles qui souvent n'ont même pas pu dire au revoir à leurs proches en réanimation ou qui les ont enterrés presque en catimini, c'est un hommage nécessaire. Anita Fernandez habite Toulouse, elle a perdu son père l'automne dernier, elle vient de se confier à Patrick Hisson.
C'est un hommage national qu'il faut faire, que ce soit une journée où les gens peuvent se recueillir sur, par exemple, ici à Toulouse, place du Capitole, faire une minute de silence et voilà, rendre l'hommage comme ça dans chaque ville.
Et ça vous manque beaucoup ?
Oui, ça manque parce que il y a rien qui se fait pour les familles et on n'a pas pu rendre hommage à mon papa, on n'a pas pu faire le deuil comme on a voulu le faire, c'est-à-dire il est mort tout seul à l'hôpital et on n'a pas pu se recueillir, l'embrasser, on n'a pas pu lui toucher les mains comme on voulait, on n'a pas pu faire son enterrement comme lui le voulait et ça serait beau de rendre un hommage à toutes ces victimes et aussi au personnel soignant qui se battent aussi tous les jours pour nos familles et pour les personnes qui sont hospitalisées.
Un témoignage recueilli par Patrick Hisson. Anita se bat aujourd'hui pour qu'un monument dédié aux victimes du Covid soit érigé à Toulouse. Le débat est ouvert. On vous attend au 32-10. Vous aurez la parole sur RTL dans un quart d'heure. Et ce n'est sans doute pas un hasard si au moment du passage du cap symbolique, l'exécutif étudie les hypothèses de réouverture à partir de la mi-mai pour les magasins, les restaurants, les lieux culturels, les salles de sport. Il y aura un calendrier secteur par secteur qui, cette fois, ne sera pas seulement fondé sur les chiffres de l'épidémie, mais aussi sur le niveau de la vaccination. Les restaurateurs se préparent déjà et, au-delà du protocole sanitaire, certains inventent. Ainsi, les fondateurs des restaurants Big Mama ont créé une nouvelle façon de payer l'addition. Nous sommes avec Victor Luger, cofondateur justement de ces restaurants. Bonjour.
Bonjour Christelle.
Alors fini pour vous la carte bancaire, parlez-nous de Sunday.
Quel bonheur, Sunday c'est le moyen le plus rapide au monde de payer au restaurant. Le client scanne un QR code sur la table, il voit apparaître l'addition sur son téléphone, en 7 secondes il a payé, il se lève, il peut partir. Plus besoin d'appeler le serveur et de demander l'addition, d'attendre, de demander la machine à carte, d'attendre.
Donc
ce qui est plus incroyable.
J'entends bien, pardon.
Ce qui est plus incroyable, c'est que 80% des gens dans les restaurants où on l'a déployé l'utilisent, les jeunes, les moins jeunes, et ça en province, à Paris et même à l'étranger, en Angleterre ou en Espagne.
Bon, donc c'est plus rapide, on paye quand on veut, on l'a entendu, on n'attend pas l'addition de longues minutes. Et pour les pourboires ?
Ça, c'est la meilleure nouvelle, parce que moi je suis restaurateur avant tout, ce qui m'importe c'est de motiver mon staff. Là, mon staff, il prend 40% de pourboire en plus, en moyenne. Tenez-vous, enfin, pour un serveur, c'est colossal. Et je vous passe le couplet que.
Mais
nos
comment
serveurs,
vous expliquez
ça
parce que moi, j'ai plutôt l'impression que le pourboire, on a envie de le donner au moment où le serveur, justement, il vient pour chercher l'addition.
Eh bien, je vais vous donner trois raisons. La première raison, c'est que des études prouvent que c'est beaucoup plus facile de laisser un pourboire s'il suffit d'appuyer sur un bouton sur son téléphone.
Ah oui.
La deuxième raison, c'est que nos clients, ça fait bien longtemps qu'ils n'ont plus de monnaie dans la poche. Et la troisième raison, c'est que quand votre serveur il a gagné 30 à 50% de son temps pour chouchouter les clients plutôt que de courir après des additions et des machines, de facto, il s'occupe mieux du client.
Et l'intérêt pour vous, patron des restaurants Big Mama, c'est de faire tourner les tables plus rapidement quand même.
Pour le restaurateur, pour nous, on l'a constaté sur des centaines de milliers de clients, la table tourne 15 minutes plus vite. Je ne sais pas si vous imaginez, mais
c'est
moi,
énorme,
à 13h15, j'étais obligé de refuser des tables parce que je n'avais pas de place. Aujourd'hui, à 13h15, j'ai libéré 10 tables de plus. Je prends 10 clients en plus. C'est colossal parce qu'à 13h15, il y a des gens qui veulent manger, mais à 13h30, ils sont partis, ils ne reviendront plus.
Mais dites-moi, il n'y a pas de risque que les clients partent sans payer, ni vu ni connu ?
Vous savez, ce qui est très intéressant, ce qui est amusant, c'est de constater que les clients ne payent pas parce qu'ils sont obligés et qu'on les surveille. Les clients, ils payent parce que c'est comme ça qu'on fait et que les gens ne sont pas des voleurs. L'autre vérité qu'on constate, c'est que quand votre serveur ne court pas derrière des additions, de facto, il s'occupe beaucoup mieux des clients, il surveille les tables, il est au service. Et c'est ça notre passion de restaurateur, c'est de servir des clients, pas de porter des additions.
Et pour le client, c'est aussi sûr qu'un paiement par carte bancaire.
Vous savez, ça fait 10 ans que tous les Français qui nous écoutent achètent des tickets de train sur leur téléphone. C'est pas du tout une nouveauté que votre téléphone ait un terminal de paiement. Et pour le restaurateur, c'est 2 à 3 fois moins cher que les commissions que prennent la banque. Combien de fois vous êtes allé au restaurant et on vous a dit « Ah, on prend pas la carte en dessous de 15 euros » parce qu'il y a des commissions fixes et variables colossales. Il est grand temps de disrupter ce marché et de rendre leur pouvoir d'achat aux restaurateurs.
Ben voilà, ça s'appelle Sunday. Vous nous l'avez très très bien vendu, hein, Victor Luger.
Merci Christelle.
Merci beaucoup. Merci, bonne journée à vous. On fait une pause. Dans un instant, un pédophile piégé au Havre.
RTL Midi.
Avec Christelle Rebière.
Un pédophile piégé au Havre, un homme de 52 ans, a été arrêté hier après-midi pour avoir donné rendez-vous à une petite fille de 12 ans qu'il avait contactée sur Facebook. L'enfant avait été créé virtuellement par une association qui travaille avec la police, Frédéric Veil.
Oui, et c'est d'ailleurs la police du Havre qui a interpellé cet homme qui avait été repéré il y a 2 mois sur les réseaux sociaux et qui, dans ses discussions avec la fillette virtuelle, lui avait clairement dit « Ça t'excite pas un peu de parler de sexe avec un grand ?» L'association Les Enfants d'Argus n'avait depuis cessé de le pister. Lambert Argus, son responsable.
On a des enfants virtuels sur une multitude de réseaux sociaux et comme à chaque fois, on ne fait jamais de proposition, on ne fait jamais de demande d'amis, on n'a aucune photo où les enfants seraient en maillot de bain ou dans une position scabreuse en jouant d'eux-mêmes. Le pédocriminel présumé, on lui précise immédiatement en général notre âge et dans les 2-3 premiers jours, on reçoit les premières photos, vidéos ou les premières explications de leur part sur comment faire l'amour ou comment ils voudraient violer l'enfant. cas. On ne fait absolument rien sans la police, sans la gendarmerie ou sans les magistrats. Maintenant, l'interpellation s'est très bien passée et il a été interpellé où lui-même avait donné un rendez-vous à la petite fille de 12 ans.
Et ce matin, cet individu est toujours en garde à vue dans les locaux de la police havraise.
La petite Mia, 8 ans, enlevée mardi près d'Épinal dans les Vosges, continue d'être activement recherchée. Trois hommes l'ont kidnappée par ruse de chez sa grand-mère qui en avait la garde. Les enquêteurs pensent toujours que l'enfant pourrait se trouver avec sa mère qui n'avait plus le droit de la voir seule. La réforme de l'assurance chômage doit entrer en vigueur au 1er juillet, mais ses conditions plus restrictives vont entraîner une baisse des droits pour plus d'un million de demandeurs d'emploi. Et déjà, quatre syndicats attaquent le décret du gouvernement devant le Conseil d'État. Anaïs Bouissou.
Oui, la CFDT vient de l'annoncer ce matin. Dans son communiqué, la centrale syndicale dénonce une réforme, je cite, « injuste, incohérente et déséquilibrée ». Les syndicats FO et la CGT ont déjà dit officiellement qu'ils contesteraient la réforme et la CFE-CGC a décidé d'en faire de même en début de semaine. Parmi les nombreuses critiques, les représentants de salariés dénoncent depuis des mois des baisses d'allocations mensuelles et des droits plus longs à ouvrir. Une récente étude d'impact de l'UNEDIC a en plus chiffré des injustices flagrante pour les jeunes mamans qui auraient eu un congé maternité, pour des allocataires malades qui auraient subi un arrêt maladie et même pour d'anciens salariés qui auraient été placés en activité partielle. La ministre du Travail a reconnu qu'il fallait améliorer la réforme à venir. Ça veut dire deux choses pour les prochaines semaines. Premièrement, à peine publié, le décret de la réforme assurance chômage va donc devoir être réécrit. Et deux, même après un énième aménagement, le Conseil d'État pourra encore, en dernier recours, faire bouger les lignes de cette réforme. Voyez, ça promet des semaines mouvementées pour l'assurance chômage d'ici au 1er juillet.
On n'y est pas encore. Merci Anaïs Bouissou. La France recommande à ses ressortissants au Pakistan de quitter temporairement le pays. Ils sont 500. De nouvelles manifestations anti-françaises ont eu lieu cette semaine à l'appel d'un parti islamiste radical qui exige l'expulsion de l'ambassadeur de France, puisque notre pays, par la voix d'Emmanuel Macron, avait défendu le droit à la caricature après l'assassinat de Samuel Paty. Enfin, puisque nous sommes englués dans le présent, projetons-nous sur l'été. Un ciel bleu azur et un soleil qui tape contre des murs blancs. Bienvenue en Grèce. Le pays commence à préparer la saison touristique. Certains Français y sont déjà. La saison débutera officiellement le 14 mai et la mise en quarantaine de 7 jours obligatoire sera supprimée dès la semaine prochaine. Alexia Kefalas.
Oui, même si les cas de contamination du virus ont tendance à augmenter dans le pays, l'économie sonne le tocsin. Donc le gouvernement grec a fait son choix, comme le confirme Haris Theochalis, ministre du Tourisme.
Comme nous l'avons dit, nous ouvrons nos frontières aux touristes le 14 mai.
Ainsi, dès la semaine prochaine, la septaine obligatoire pour tout arrivant en Grèce sera levée et une file prioritaire sera installée dans les aéroports pour que les vacanciers vaccinés puissent sortir plus vite que ceux qui doivent présenter un test PCR de moins de 72 heures. Au même moment, quelques 200 touristes hollandais sont enfermés depuis mardi soir dans un palace tout compris de l'île de Rhodes et 150 autres Allemands en Crète. Un test sanitaire pour ce nouveau tourisme de masse, car il y a urgence. Le tourisme, c'est le deuxième pilier de l'économie grecque derrière la marine marchande et l'emploi un actif sur cinq concerne 150 secteurs d'activité, mais a accusé une chute de près de 80% l'an dernier, alors pas question de rater le coche cette année. Pour se protéger, la Grèce mise sur les vaccins. Plus d'un quart de la population a déjà été vaccinée, dont 60 îles et nombre de professionnels du tourisme.
Merci Alexia Kefalas, correspondante d'RTL à Athènes. Je vous vois danser le cirque.
Oui.
Qui a mis...
Vous voulez danser vous, avec moi? Il y a un sujet qui me tient à cœur, c'est les enfants. Alors les enfants, c'est de 5, 6 jusqu'à 17 ans. J'ai le sentiment qu'ils sont les grands oubliés de cette crise, et notamment parce qu'ils ne peuvent pas faire de sport. Et un enfant qui ne fait pas de sport, voilà, je trouve que c'est ce qu'il y a de pire. Et notre culture, nous en France, n'incite pas assez les enfants à déjà faire du sport, mais là, ils n'en font pas du tout tout le week-end. Ils sont devant les écrans, donc j'aimerais qu'on ait des témoignages, pourquoi pas d'ailleurs, de grands-enfants qui ont 14, 15, 16 ans, qui pourraient nous appeler. Vous vous rendez compte qu'il n'y a pas un entraînement collectif de basket depuis un an?
Bien sûr.
C'est un truc incroyable, c'est jamais arrivé. Donc ils ne peuvent pas faire de compétition, ils ne peuvent pas faire d'entraînement. Ça serait bien qu'on ait des parents, ça serait bien qu'on ait des enfants. Et puis on parlera évidemment de Sarah Halimi, de l'hommage national pour les victimes du Covid, de la réouverture à laquelle, je ne sais pas si vous y croyez le 15 mai, mais moi en tout cas j'ai des doutes.
J'ai compris que vous n'y croyez pas.
J'ai des doutes, mais je vous rappelle que Emmanuel Macron nous avait dit le 1er mars qu'il assouplirait le 15 avril.
Ah, dites donc, on est le 15 avril aujourd'hui. Les 6 semaines, c'est top aujourd'hui.
C'est ballot, top aujourd'hui, hein. Figurez-vous. Ben, voilà. Et ben, vous déjeunerez à la cantine. Même pas ?
Non, même chez pas. Vous. Je vais rentrer chez moi, je pense.
Exactement, puisque vous n'aurez rien le droit de faire.
Voilà. Peggy. Oui. La météo, les températures décollent toujours pas.
Et non, c'est vrai que ça reste encore bien frais, Christelle. Hein, cet après-midi, surtout au nord, on est 4 à 5 degrés en dessous des normales, avec en plus ce petit vent de nord-est qui renforce cette sensation de fraîcheur. 9 degrés seulement à Langres, 10 à Lille, 11 à Paris, Bourges, 12 à Lyon et Cognac, 13 degrés à Brest, comme à Montélimar, 15 à Toulon, 17 à Agen et Auch et quand même 18 à Montpellier. Alors le temps est bien ensoleillé sur tout l'ouest du pays, jusqu'au Languedoc, et plus nuageux et humide sur le nord-est avec quelques gouttes. Et sur la façade est également, quelques averses de grésil possibles sur l'extrême nord. De la neige à basse altitude sur tous les reliefs de l'est jusqu'à la Corse, dès 600 mètres. Hein, 600-700 mètres sur les Vosges et le Jura, 1000 mètres sur les Alpes du Sud. Les Alpes du Sud où le temps est instable, avec beaucoup de nuages, des averses, tout comme en Corse.
Bon, et demain c'est le retour des nuages ?
Globalement, oui. On va profiter quand même d'une belle matinée bien ensoleillée sur l'ensemble du pays, sauf sur la façade est où là le ciel sera déjà chargé, bien nuageux et instable toujours entre les Alpes et la Corse. Et dans l'après-midi, le soleil résistera uniquement vraiment en bord de Manche et sur la façade atlantique. Partout ailleurs, ça va se couvrir, un ciel chargé, sec sur la moitié nord et des averses de pluie ou de neige à basse altitude sur le massif central entre le Jura, les Alpes et la Corse.
Donc toujours aussi frais quand même.
Alors, côté température, c'est vrai qu'on aura encore beaucoup de gelée. Oui, malheureusement, ça reste froid, moins 4 à Ambérieu et Aurillac.
C'est long et c'est catastrophique.
C'est long. Oui, c'est long, c'est compliqué. Il en restera encore quelques-unes samedi et dimanche, ça ira mieux. Moins 2 à Mulhouse et Auch, moins 1 au Mans, à Reims, à Orléans, 0 degrés à Dijon et à Caen. Donc encore beaucoup de gelée à l'intérieur des terres. Et pour les maximales, elles seront stationnaires, toujours fraîches au nord et même en légère baisse au sud. 10 à Cherbourg, 11 à Lille, 12 à Paris et Lyon, ainsi qu'à Limoges, 15 à Bordeaux, Toulouse, Nîmes et quand même 17 degrés à Perpignan.
Bon, c'est lassant, mais merci quand même.
Il est 13h pile.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud. Faut-il rendre un hommage aux victimes du Covid ? Et nous sommes avec Sandrine. Bonjour, oui. Sandrine, qui est infirmière libérale et peut-être concernée, effectivement, par ce sujet.
Bonjour.
Bonjour, Sandrine.
Bonjour, Pascal. Oui, alors je suis concernée bien sûr parce que ça fait un an quand même qu'on travaille nous depuis le début de la pandémie, donc le Covid on sait ce que c'est. Par contre un deuil national, non je suis pas d'accord.
Eh bien merci, on va développer cette idée, mais d'abord le rappel des titres avec Christelle.
Visite de chantier à Notre-Dame pour Emmanuel Macron, 2 ans jour pour jour après l'incendie de la cathédrale, l'édifice est sauvé, le chef de l'État souligne l'immense travail accompli. Notre-Dame sera rendue au culte le 16 avril 2024, même si le chantier ne sera pas achevé à cette date. Hommage et reconstruction, le cap des 100 000 morts dus à la pandémie sera franchi dans les prochaines heures alors qu'on est en plein dans la troisième vague. L'exécutif tiendra une réunion en fin d'après-midi pour préparer un calendrier de réouverture progressive des commerces, des lieux culturels, des restaurants, secteur par secteur à partir de mi-mai. Pour contrer le variant brésilien qui est présent en ce moment à 80% en Guyane, un tour de vis, c'est une information RTL. Depuis hier, les passagers qui arrivent dans l'Hexagone font l'objet de contrôles systématiques et de tests antigéniques obligatoires. Les Jeux Olympiques en question, le numéro 2 du principal parti au pouvoir au Japon, estime que les Jeux de Tokyo pourraient être annulé cet été en dernier recours. Mais le pays fera tout, évidemment, pour éviter d'en arriver là.